إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc la lecture du livre de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala au sujet de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous en sommes arrivés aujourd'hui au passage concernant la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la Fatiha. Et comme on va le voir, la récitation après surat al-Fatiha, elle n'est pas obligatoire. Mais si la personne ne lit que surat al-Fatiha dans sa prière, alors sa prière est valide. Toutefois, comme on a dit, et comme on ne cesse de le répéter, lorsque l'on dit qu'une chose n'est pas obligatoire, cela ne veut en aucun cas dire que cette chose doit être délaissée ou négligée et que l'on ne doit pas y donner de l'importance. Au contraire, il convient aux musulmans de faire des efforts pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure manière dans sa manière d'accomplir la prière. Et parmi ces choses, la récitation après la Fatiha. Mais si l'on apprend le jugement de cette récitation, et que l'on dit qu'elle n'est pas obligatoire, et que la prière de celui qui ne récite aucune sourate après sourate al-Fatiha est valide, cela est dans le but de savoir le jugement de cet acte. C'est-à-dire, si par exemple un jour par oubli, après la Fatiha tu t'inclines, tu vas alors te poser la question, est-ce que ma prière est valide ou non? Et la réponse est que la prière est valide, mais tu auras alors délaissé un acte méritoire et recommandé. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il dit ici, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita après la Fatiha une autre sourate. Cette récitation était parfois longue et d'autres fois courte. S'il était en voyage, malade, entendait une toux ou un enfant qui pleure. Donc ici le mieux serait de dire, cette récitation était parfois longue et d'autres fois courte pour cause de voyage, toux, maladie ou s'il entendait un enfant qui pleure. Et non pas s'il entendait une toux. Mais en raison de la toux, c'est-à-dire si lui-même, il toussait, il se peut que cela l'amenait parfois à raccourcir la récitation, comme on va le voir dans un hadith que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné. Donc ceci nous prouve la permission de raccourcir la récitation en prière en cas de besoin, comme la maladie, ou lorsque tu es pris par une toux lors de ta récitation, ou si l'imam entend un enfant qui pleure. Ensuite, il dit, rahimahullah, d'ailleurs, Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écourté la prière du Fajr. Dans un autre hadith, il pria le Subh et récita les deux sourates les plus courtes du Coran. Alors que comme on va le voir, la sunna est de prolonger la récitation lors de la prière du Fajr. Mais dans cette prière, il a récité les deux sourates les plus courtes du Coran. Alors cela a interpellé les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils l'ont interrogé. Donc il dit, on lui demanda alors, ô prophète d'Allah, pourquoi as-tu raccourci la prière? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu les pleurs d'un enfant. J'ai pensé que sa mère était en train de prier avec nous et j'ai voulu libérer sa mère pour lui. Et il disait aussi, sallallahu alayhi wa sallam, je commence la prière en voulant la prolonger. Mais dès que j'entends les pleurs d'un enfant, je l'écourte car je sais que la mère doit avoir beaucoup de chagrin pour son enfant qui pleure. Donc il y a de nombreux bénéfices que l'on peut tirer de ce hadith. Et parmi ces bénéfices, on voit la miséricorde et la bienveillance du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté. Au point qu'il a raccourci une prière en raison des pleurs d'un enfant afin que sa mère ne soit pas chagrinée. Et ceci est un parmi les nombreux exemples de la bienveillance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On tire également de cela la permission de changer d'intention quant à la récitation, c'est-à-dire que si à la base tu avais l'intention de réciter une sourate longue, mais qu'au cours de la prière il se produit une chose qui amène la personne à devoir la raccourcir, alors il lui est permis de choisir de réciter une autre sourate qui sera plus courte, et ce, comme le prouve ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je commence la prière en voulant la prolonger, mais dès que j'entends les pleurs d'un enfant, je l'écourte. Il est donc permis, pour celui qui prie, d'écourter la récitation en cas de besoin, même si à la base, il avait l'intention de prolonger la récitation dans sa prière. Également, on tire comme bénéfice de cela la permission d'adapter la récitation dans la prière à la situation dans laquelle tu te trouves. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a écourté cette prière. Pourquoi? Car il a entendu les pleurs d'un enfant. Donc de la même manière, s'il y a une raison qui pousse la personne à écourter sa prière, dans ce cas-là, il est permis pour elle de l'écourter en écourtant la récitation. À titre d'exemple, concernant les retardataires, il se peut parfois qu'une personne arrive en retard lors de la prière en commun. Dans ce cas-là, il arrive que la personne du rang qui est devant toi reste assise afin de te servir de sutra et attendre que tu termines ta prière. Dans ce cas-là, il n'est pas convenable que tu prolonges longuement ta récitation. Mais ce qu'il convient est que tu écourtes ta récitation afin de pouvoir libérer cette personne qui fait preuve de bienveillance envers toi et qu'elle puisse se lever et partir de la mosquée. De la même manière, il arrive que certaines mosquées soient fermées après les prières. Donc dans ce cas-là, le retardataire ou celui qui est en train d'accomplir une prière surérogatoire après la prière obligatoire, s'il se rend compte que le responsable de la mosquée est en train de l'attendre pour fermer la mosquée, il ne lui convient pas de prolonger la récitation dans sa prière à ce moment-là. Mais, au contraire, il lui est permis d'écourter sa récitation afin de libérer cette personne qui est en train de l'attendre. Également, parmi les bénéfices que l'on tire de ces hadiths, comme le Shir, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné dans la note 3, dans laquelle il dit, dans ce hadith et ses semblables, on constate qu'il est permis de faire rentrer les enfants dans les mosquées. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est en prière, il entend les pleurs de cet enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il écourte la prière, afin de ne pas chagriner la mère de cet enfant. Mais est-ce qu'il a blâmé cette femme qui est venue avec son enfant à la prière? Est-ce qu'il a ordonné à ce que les enfants ne viennent pas dans la mosquée? La réponse est non. Donc on voit qu'il est permis pour les musulmans de faire entrer les enfants dans la mosquée. Toutefois, si tu crains que l'enfant perturbe les prières, s'il est agité et que tu crains qu'il fasse du bruit dans la mosquée et que tu as possibilité de le faire garder et d'aller prier seul en te rendant à la mosquée, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de doute que tu évites de l'emmener. Donc tout ceci concerne bien sûr les enfants qui ne sont pas enjoints de prier, c'est-à-dire les enfants en dessous de 7 ans. Quant à l'enfant qui atteint l'âge de 7 ans, alors il convient à ses responsables de lui ordonner la prière, comme il est venu dans le hadith, et si c'est un garçon, bien sûr, de l'emmener avec soi à la mosquée. Ensuite, il dit, rahimahullah, il commençait à lire à partir du début de la sourate, et en général, il la lisait en entier. Donc on voit à travers cela que la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, concernant la récitation après sourate al-Fatiha, est que si tu entames une sourate, alors tu la récites entièrement. Toutefois, il est permis, comme on va le voir par la suite, de ne réciter que quelques versets de cette sourate, comme par exemple quelques versets du début, du milieu ou de la fin d'une sourate. Mais le mieux, et ce qui est préférable, et ce qui est rapporté dans la majorité des hadiths concernant la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, est de terminer la sourate. Comme on le voit ici, lorsqu'il commençait à lire à partir du début de la sourate, en général, il la lisait en entier. Ensuite, il a dit, rahimahullah, il disait, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accordez à chaque sourate sa pleine part d'inclination et de prosternation. Et dans une autre version, pour chaque sourate, il y a une raka'a, c'est-à-dire une unité de prière. Donc ceci nous prouve que la base et ce qui est préférable est de réciter après sourate al-Fatiha une sourate entière par unité. Toutefois, comme on va le voir par la suite, il est également permis de réciter deux sourates. De réciter deux sourates après sourate al-Fatiha. Et également, il est permis de réciter dans les deux premières raka'a une sourate que tu auras divisée en deux. C'est-à-dire que tu lis la première partie de la sourate dans la première unité et que tu la termines après la Fatiha dans la deuxième unité. Ensuite, il dit, rahimahullah, parfois il récitait la sourate sur deux raka'a, comme on vient de le dire. Il lisait une partie dans la première unité et une partie dans la deuxième unité. Et parfois, il la répétait en entier lors de la seconde raka'a. Parfois, il répétait la même sourate dans la deuxième unité. Comme on va le voir, le Shir, rahimahullah ta'ala, il a mentionné un exemple de cela. Et ceci nous prouve la permission pour le musulman de réciter dans la première et la deuxième raka'a la même sourate après sourate al-Fatiha, comme cela est rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit en d'autres occasions, il récitait dans la même raka'a deux sourates ou plus. C'est-à-dire que parfois, il lui arrivait, dans une seule unité de prière, de réciter après sourate al-Fatiha deux sourates ou plus encore, comme cela est rapporté par exemple concernant la prière de nuit, comme nous le verrons par la suite, inshallah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, un homme parmi les Ansar dirigeait la prière à la mosquée de Quba. Chaque fois qu'il récitait une sourate dans la prière, c'est-à-dire après sourate al-Fatiha, il commençait par réciter la sourate al-Ikhlas, entière. Ensuite, il récitait une autre sourate. Donc il récitait sourate al-Fatiha, ensuite il récitait sourate al-Ikhlas, et ensuite, il récitait après celle-ci, une autre sourate. Il dit, rahimahullah, il procédait de la sorte à chaque raka'a. C'est-à-dire que dans chaque unité de prière, il faisait cela. Ses compagnons lui dirent, tu commences toujours par cette sourate. C'est-à-dire par sourate al-Ikhlas, après sourate al-Fatiha. Puis tu trouves qu'elle ne suffit pas. Alors, tu récites une autre sourate avec. Donc, soit tu te contentes de réciter celle-là, sourate al-Ikhlas, soit tu la laisses et tu en récites une autre. Ils lui ont donc demandé, soit de ne réciter que al-Fatiha al-Ikhlas, soit de réciter al-Fatiha et une autre sourate. Mais de ne pas réciter, sans cesse, sourate al-Ikhlas et une autre sourate, après celle-ci. Il leur répondit alors, je ne la délaisserai pas. Si vous voulez que je dirige la prière de cette façon, je le ferai, mais si vous n'aimez pas ce que je fais, je vous quitterai. Donc on voit à travers cela l'importance pour l'imam de prendre en considération la situation des fidèles derrière lui. Et ce, selon les limites, légiférées, comme on va le voir à travers un autre hadith. Ensuite, il dit, rahimahullah, or, il le considérait comme le meilleur d'entre eux. Et il ne voulait pas que quelqu'un d'autre le replace dans sa fonction d'imam, c'est-à-dire pour lui diriger la prière. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint les voir, ils l'informèrent de la situation. Ils l'ont donc informé de ce que faisait cet homme lorsqu'il leur dirigeait la prière. Il dit alors, « Oh, un tel, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que t'ordonnent tes compagnons ? De plus, qu'est-ce qui t'incite à réciter cette sourate à chaque raka'a ? De la réciter constamment. » Donc on voit ici le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il est informé de la situation, interroge afin de connaître la motivation de cet homme et qu'est-ce qui le pousse à accomplir cet acte. Il répondit, je l'aime, c'est-à-dire j'aime cette sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, ton amour pour cette sourate te fera entrer au paradis. Donc on voit à travers ce hadith le mérite de sourate al-Ikhlas et le mérite d'aimer cette sourate pour ce qu'elle contient comme description d'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et on voit également à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ce que faisait cet homme. Il ne l'a donc pas blâmé. C'est-à-dire qu'il est permis pour la personne de réciter, après sourate al-Fatiha, la même sourate dans la première et dans la deuxième unité de prière, et il est également permis pour la personne de réciter deux sourates après sourate al-Fatiha. Ensuite, il dit, rahimahullah, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité des sourates qui se ressemblent dans une même raka'a, dans une même unité de prière. Donc ici, il nous démontre qu'il est permis et légiféré de réciter deux sourates après sourate al-Fatiha dans une même raka'a et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait, il choisissait des sourates similaires. Il dit donc, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait des sourates similaires parmi les sourates du Mufassal. Et il récitait ensemble les sourates, puis il énumère un certain nombre de sourates, comme vous pouvez le voir. Donc il dit dans la note de bas de page, rahimahullah ta'ala, les sourates similaires, c'est-à-dire les sourates qui sont semblables au niveau du sens, dans les sermons, les sagesses ou les récits. Puis il dit, rahimahullah, les sourates du Mufassal commencent d'après l'avis le plus correct à sourate Qaf et vont jusqu'à la fin du Coran selon l'unanimité des savants. Donc Al-Mufassal, c'est la dernière partie du Coran. Le Shir, rahimahullah ta'ala, il dit, selon l'avis le plus correct, il commence à sourate Qaf. Et certains ont dit à sourate Al-Hujurat, c'est-à-dire celle qui est juste avant sourate Qaf. Et à l'unanimité, ils disent qu'il va Al-Mufassal jusqu'à la fin du Coran, c'est-à-dire jusqu'à sourate An-Nas. Et ces sourates, ce sont les sourates que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le plus souvent dans les prières obligatoires. Il est donc fortement recommandé pour tout musulman de faire des efforts pour mémoriser Al-Mufassal, de sourate Qaf jusqu'à la fin du Coran, et ce, afin de pouvoir suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la récitation dans ses prières. Donc comme vous le voyez, le Shir rahimahullah ta'ala, il a ici mentionné un certain nombre de sourates que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait ensemble après sourate al-Fatiha dans sa prière. Ensuite, il dit, rahimahullah, parfois, Il regroupait dans la prière nocturne des sourates faisant partie des sept plus longues sourates du Coran, telles que la vache, les femmes, la famille de Imran, dans une seule raka, dans une seule unité de prière, comme nous le verrons plus loin, c'est-à-dire comme nous le verrons lors de la partie sur la récitation lors de la prière nocturne. Il disait à ce sujet, la meilleure prière est celle dans laquelle on reste le plus longtemps debout, c'est-à-dire en récitant le Coran. Donc il est légiféré pour le musulman lorsqu'il prie de prolonger la récitation du Coran, tout en veillant à respecter en cela ce qui est rapporté dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, concernant le choix des sourates à réciter en fonction de la prière que tu es en train d'accomplir. Et le shir, rahimahullah ta'ala, va nous détailler cela comme vous allez le voir. Ensuite, il dit, rahimahullah, lorsqu'il récitait, أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيَ الْمَوْتَىٰ, celui-là, c'est-à-dire Allah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Il disait, Subhanaka fabala. Certes, gloire à toi. Et quand il récitait, Sabbih isma rabbika al-a'la, glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, il disait, Subhana rabbi al-a'la, gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Donc le shir rahimahullah ta'ala, il dit ici en bas de page, à la note 5, ce hadith est général, donc il concerne la récitation, aussi bien pendant la prière qu'en dehors, c'est-à-dire qu'en dehors de la prière, lors de la récitation du Coran. Puis il dit, dans la prière obligatoire ou surérogatoire. Ibn Abi Shayba rapporte qu'Abu Musa al-Ash'ari et al-Mughira disaient ceci dans la prière obligatoire. Et il l'a rapporté de Omar et Ali dans le contexte général, c'est-à-dire sans préciser si c'est la prière obligatoire ou surérogatoire ou simplement lors de la récitation du Coran. Donc le shir rahimahullah ta'ala nous mentionne ici que prononcer ces paroles lors de la lecture de ces versets du Coran est légiféré et ce de manière générale. Ensuite, il dit, rahimahullah, il est autorisé de ne réciter que la Fatiha. Donc, comme on l'a dit, il est permis pour celui qui prie de ne réciter que surat al-Fatiha sans ajouter de surat après celle-ci. Il dit, rahimahullah, Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, accomplissait la prière de l'Aïcha, la dernière prière, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis il revenait chez lui et dirigeait la même prière à ses compagnons. Donc, tout d'abord, on voit à travers cela qu'il est permis pour la personne d'accomplir la prière obligatoire derrière un imam, puis ensuite de l'accomplir une seconde fois en la dirigeant à d'autres personnes, comme le faisait Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, qui priait derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite, il retournait diriger la même prière à ses compagnons. On voit également à travers cela la permission que l'intention de l'imam et de celui qui prie derrière lui soit différente. En effet, Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, il accomplissait la seconde prière de façon surérogatoire, car il avait déjà accompli la prière obligatoire derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il priait donc lui une prière surérogatoire, et ceux qui priaient derrière lui priaient leur prière obligatoire. Il est donc permis pour la personne de faire une prière obligatoire derrière quelqu'un qui fait une prière surérogatoire. À titre d'exemple, si durant le ramadan tu arrives en retard à la mosquée, et que tu as manqué salat al-isha, et qu'ils ont déjà commencé la prière de Tarawih, alors il est permis pour toi de t'insérer derrière l'imam avec l'intention de prier Salat al-Aïcha. Puis une fois qu'il aura salué et qu'il aura fait deux unités, tu te lèveras pour compléter la prière de l'Aïcha seul. Ensuite il dit, donc toujours en mentionnant ce hadith, une fois, il revint et dirigea la prière, c'est-à-dire Mu'adh radiyallahu anhu, et il y avait un jeune homme de sa tribu de Bani Salama, nommé Sulaym, qui trouva la prière trop longue. Il partit et pria dans un coin de la mosquée. C'est-à-dire qu'il est sorti de la prière, il n'a pas prié avec Mu'adh, radiyallahu anhu, il est parti prier seul dans un coin de la mosquée. Par la suite, il sortit, prit les rênes de sa monture et s'en alla. Quand Mu'adh eut fini de prier, on lui rapporta l'incident, c'est-à-dire on lui rapporta ce qui venait de se produire. Il dit alors, celui-ci a certainement de l'hypocrisie. Il dit cela blâmant cet acte de ce jeune homme qui est sorti de la prière, a prié seul, en écourtant sa prière, puis s'en étant allé, il n'a pas prié avec le groupe. Puis il dit, je vais certes informer le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il a fait. Le jeune homme dit alors, c'est-à-dire lorsqu'il a pris cela, moi aussi je vais rapporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'a dit Mu'adh. Ils partirent tôt le matin voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Mu'adh lui rapporta l'agissement du jeune homme. Le jeune homme répliqua, ô prophète d'Allah, il reste longtemps en ta compagnie pour accomplir la prière, puis il revient et nous prolonge la prière. Donc tout d'abord, on tire comme bénéfice de cela qu'il est légiféré, en cas de conflit, de désaccord, sur une question quelconque parmi les questions religieuses, de renvoyer cette question au détenteur du savoir, comme l'ont fait ici ce jeune homme et Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhuma, qui sont partis informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cet incident qui s'est produit. Et ceci est une des causes principales pour mettre fin aux discordes et aux désaccords entre les gens. Donc Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, il l'informa de ce qu'avait fait le jeune homme et le jeune homme répliqua au prophète d'Allah, il reste longtemps en ta compagnie pour accomplir la prière, il accomplit la prière de l'Aïcha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite il revient et il nous prolonge la prière, c'est-à-dire qu'il prie longuement lorsqu'il leur dirige la prière. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, « Cherches-tu à semer la discorde, Mu'adh ?» Et on tire de cela un bénéfice important, qui est la permission de blâmer une personne qui a fait une faute en la citant par son nom. En effet, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de manière absolue le fait de blâmer l'erreur sans mentionner le nom. Comme il le faisait parfois sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait « Il y a des gens qui font ceci et cela » puis il condamnait l'acte sans mentionner les personnes. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de faire cela. Mais dans d'autres situations, il lui arrivait aussi de blâmer la personne en citant son nom comme il l'a fait ici en disant « Cherches-tu à semer la discorde, ô Mu'adh ?» Il le blâma nommément. Puis il dit au jeune homme « Comment procèdes-tu au fils de mon frère lorsque tu pries ?» Il interrogea sur sa manière de prier. Il lui dit « Je lis surat al-Fatiha et je demande à Allah qu'il m'accorde le paradis et je me réfugie auprès de lui contre l'enfer. Et je ne comprends pas tes murmures ni ceux de Mu'adh. » Donc cette phrase, c'est celle pour laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala a cité le hadith ici. Car on voit que ce jeune homme, il ne lisait dans sa prière que surat al-Fatiha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé son acte et ne l'a pas blâmé pour cela. Ceci nous démontre qu'il est permis de ne réciter que surat al-Fatiha dans la prière. Mais le mieux est ce qui est recommandé, comme on l'a dit, et d'y ajouter une autre surat du Coran. Ensuite il dit, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit alors, Mu'adh et moi ne faisons des invocations qu'autour de ces deux thèmes ou ce qui s'y apparente, c'est-à-dire la demande du paradis et le fait de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'enfer. Il dit ensuite, le jeune homme dit, mais Mu'adh sera quand le peuple adverse viendra. C'est-à-dire que le jeune homme ici, il reprend Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, concernant la phrase qu'il a prononcée auparavant lorsqu'il a dit « Celui-ci a certainement de l'hypocrisie ». C'est-à-dire, il verra, lorsque le peuple adverse viendra, au moment du combat, « Est-ce que j'ai en moi de l'hypocrisie ?» Il voulait prouver sa véracité et qu'il ne faisait pas partie des hypocrites, radiyallahu ta'ala anhu. Et ils furent informés que l'ennemi était venu. Il dit « Ils vinrent », c'est-à-dire les ennemis, et le jeune homme mourut en martyr. Par la suite, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à Mu'adh « Qu'en est-il de celui avec qui nous avons eu une altercation, c'est-à-dire avec qui nous avons eu ce désaccord lorsque Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu est venu le voir. Il dit, ô prophète d'Allah, il a été sincère envers Allah et moi non, il est mort en martyr. Donc tout d'abord, ici, je trouve que la traduction n'est pas convenable. Ô prophète d'Allah, il a été sincère envers Allah et moi non. Mais ce qui est juste est de dire, il a été véridique envers Allah et j'ai menti. Il a été véridique envers Allah, c'est-à-dire que ce n'était pas un hypocrite. Mais sa foi était véridique. Et j'ai menti, c'est-à-dire, je me suis trompé lorsque j'ai dit qu'il avait certainement de l'hypocrisie. En effet, ce jeune homme est mort en martyr durant une bataille. Radiyallahu ta'ala anhu wa an sahabati ajma'in. Ensuite, le shir rahimahullah ta'ala a dit, la récitation du Coran à voix haute et à voix basse lors des cinq prières et dans d'autres circonstances. Donc ici, le shir, rahimahullah ta'ala, il nous indique quelles sont les prières dans lesquelles on récite à voix haute et quelles sont celles dans lesquelles on récite à voix basse. Il dit, rahimahullah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récita à voix haute lors de la prière du subh, lors des deux premières raka'a, des prières d'El Maghrib et d'El Isha. Par contre, il récita à voix basse, lors de la prière du dhuhr, d'El Asr, la troisième raka'a de la prière d'El Maghrib et les deux dernières raka'a, de la prière de l'Aïcha. Et donc ce que le shir rahimahullah ta'ala a mentionné est reconnu à l'unanimité des musulmans et ce, sans aucune divergence. On récite à voix haute lors de la prière de l'Fajr et les deux premières unités d'El Maghreb et de l'Aïcha. Quant au Dhor, au Asr et aux dernières unités d'El Maghreb et de l'Aïcha, celles-ci sont récitées à voix basse. Toutefois, il est important de souligner que la récitation à voix haute est une sunna qui est recommandée, mais qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que si la personne récite à voix basse, alors sa prière est valide Inch'Allah ta'ala. Mais comme on a dit, ceci ne veut pas pour autant dire que cette sunna doit être délaissée. Mais s'il y a un besoin, alors il est permis pour la personne de réciter à voix basse. À titre d'exemple pour la femme, qui doit accomplir sa prière obligatoire comme la prière du Maghreb ou de l'Aïcha, dans une maison dans laquelle se trouvent, dans la pièce voisine par exemple, des hommes étrangers. Alors dans ce cas-là, il sera légiféré pour elle de prier à voix basse, même si c'est El Maghreb, El Aïcha ou El Fajr, et ce, afin de ne pas se faire entendre. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, ils, c'est-à-dire les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, savaient quand ils récitaient à voix basse au mouvement oscillatoire de sa barbe, mais aussi du fait qu'il leur faisait entendre un verset de temps à autre. Donc les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils savaient que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait le Coran, et ce à travers deux choses. Car ils voyaient sa barbe bouger. Et ceci est une preuve que la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam était abondante. Car si ce n'était pas le cas, il n'aurait été pas possible que de derrière lui, il voie sa barbe bouger. Mais s'il la voyait bouger, cela veut dire que sa barbe était abondante sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième chose qui leur permettait de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait, c'est le fait que de temps à autre, il leur faisait entendre un verset de la sourate qu'il récitait. C'est-à-dire que lors des prières à voix basse, il est légiféré, c'est une sunna de temps en temps, pour l'imam, d'élever quelque peu la voix afin de faire entendre un verset de la sourate qu'il récite. Et le shir, rahimahullah ta'ala, va revenir sur cela par la suite. Ensuite, il dit, rahimahullah, en outre, il récita à voix haute lors de la prière du vendredi, celle des deux Eid, de la demande de pluie et de l'éclipse lunaire et solaire. Donc toutes ces prières sont des prières durant lesquelles un grand nombre de musulmans se rassemblent. Alors, il convient à l'imam de leur faire entendre le Coran. Et ceci est une des sagesses mentionnées concernant le fait qu'il est légiféré de réciter à voix haute lors de ses prières. Ensuite, il dit, rahimahullah, la récitation du Coran à voix haute et à voix basse lors de la prière nocturne. Dans la prière nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait parfois à voix haute et parfois à voix basse. On voit donc à travers cela que celui qui souhaite accomplir la prière de nuit, il a alors le choix de prier à voix basse ou bien de prier à voix haute, selon ce qui convient le mieux à la situation dans laquelle il se trouve et également selon ce qui l'aide le plus à se concentrer sur sa récitation. Et également, il est permis de réciter parfois à voix haute ou parfois à voix basse, comme le faisait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, chaque fois qu'il récitait chez lui, dans sa maison, toute personne se trouvant dans la pièce l'entendait. Et ceci nous démontre qu'il ne récitait ni à voix haute, ni à voix basse. Mais il récitait à mi-voix entre les deux. De sorte que les gens qui sont dans la pièce l'entendent, mais ceux qui sont plus loin ne l'entendent pas. Ensuite, il dit, occasionnellement, il lui arrivait d'élever encore plus la voix, de sorte que ceux qui étaient à l'extérieur de la pièce pouvaient l'entendre. Et ceci nous prouve la permission d'élever la voix de temps à autre, tant qu'il n'y a pas de nuisance en cela. En outre, il a recommandé cela à Abu Bakr et Omar, radiyallahu ta'ala anhuma. En sortant une nuit, il entendit Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, réciter à voix basse. Puis il passa à côté de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, et il l'entendit prier à voix haute. Lorsqu'ils se réunirent auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, « Ô Abu Bakr, je suis passé près de chez toi alors que tu priais, et tu récitais à voix basse. » Il répondit, « Celui à qui je faisais des confidences, c'est-à-dire celui à qui je m'adressais, m'a entendu, ô prophète d'Allah. » Puis il dit à Omar, « Je suis passé près de chez toi, et tu priais à voix haute. » Il répondit alors, « Ô prophète d'Allah, je voulais réveiller le somnolent et chasser Satan. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, « Ô Abu Bakr, élève un peu la voix. » Et il dit à Omar, « Baisse un peu le ton. » Donc on tire de cela que la sunna, lors de la prière de nuit, est de réciter à mi-voix. C'est-à-dire ni à voix trop haute, ni à voix trop basse. Mais tu récites entre les deux, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith à Abu Bakr et Omar. Ensuite il dit, rahimahullah, par ailleurs il disait, « Celui qui élève la voix en lisant le Coran, c'est-à-dire celui qui élève la voix de sorte à se faire entendre par les gens, est comparable à celui qui montre à tout le monde qui fait l'aumône, c'est-à-dire à celui qui fait l'aumône devant les gens. Tandis que celui qui lit le Coran à voix basse ressemble à celui qui se cache en faisant l'aumône, c'est-à-dire qui fait une aumône secrètement. » Donc on tire de ce hadith une incitation pour le musulman à réciter à voix basse lorsqu'il récite le Coran, c'est-à-dire de sorte à ne pas se faire entendre. Car ceci va l'aider à concrétiser l'ikhlas, à concrétiser la sincérité et le culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Car si personne ne l'entend, alors sa récitation sera plus à même d'être exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement au fait que s'il élève la voix en se faisant entendre, il se peut que le diable lui suggère d'embellir sa récitation afin que les gens l'entendent réciter, puis qu'il le complimente pour cela. Et ainsi, il risquerait alors d'annuler son œuvre ou wal-iyadu billah. Toutefois, s'il y a un intérêt dans cela, un intérêt prépondérant, comme le fait qu'il soit pris comme modèle par les gens de sa famille, par ses enfants ou autres, alors il se fait entendre au moment de prier afin d'inciter les gens de sa maison à en faire de même. Alors dans ce cas-là, ceci est légiféré et c'est même louable, inshallah ta'ala, de la même manière que celui qui ferait une aumône publiquement devant les gens afin que les gens le suivent dans celle-ci et en fassent de même. Ensuite, il dit, rahimahullah, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait lors des prières. Concernant ce que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme salat et verset lors des prières, cela différait selon que c'était dans les cinq prières obligatoires ou les autres. Puis le shir rahimahullah ta'ala a mentionné cela en détail, en commençant par la prière de l'aube, et le temps du cours étant terminé, nous allons nous arrêter là, inshallah, pour aujourd'hui, on lira cette partie dans le cours de la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.